Heures et malheurs de l'émancipation communiste et anticolonialiste. Compte tenu des différences considérables entre les systèmes d'enregistrement et de comptabilisation de la production et des revenus, et du fait du caractère multidimensionnel des écarts entre Est et Ouest, la meilleure façon de prendre la mesure des mauvaises conditions de vie en Russie soviétique est sans doute d'utiliser les données démographiques. Or, ces dernières montrent une inquiétante stagnation des espérances de vie à partir des années 1950. On observe même à la fin des années 1960 et au cours des années 1970 une légère tendance à la baisse de l'espérance de vie des hommes, ce qui est inédit pour un pays en temps de paix, ainsi que des statistiques de mortalité infantile qui ont cessé de se réduire. L'ensemble témoigne d'un système sanitaire en grande difficulté et qui semble avoir touché ses limites. Dans les années 1980, les tentatives de Gorbatchev de s'attaquer à la surconsommation d'alcool joueront un rôle central dans la chute de popularité du dernier dirigeant soviétique et dans l'effondrement final du régime. Après avoir été le régime qui a su sortir le peuple russe du tsarisme et de la misère, le communisme soviétique devient synonyme de faible bien-être et de vie écourtée. L'affaiblissement politico-idéologique final du régime soviétique dans les années 1970-1980 doit également beaucoup au fait que la plupart des marqueurs les plus forts de l'après-guerre ont graduellement disparu. Dans les années 1950, l'Union soviétique bénéficie d'un prestige moral considérable au niveau international, lié non seulement à son rôle décisif dans la victoire contre le nazisme, mais également au fait qu'elle représente alors avec le mouvement communiste international qu'elle fédère et contrôle, la seule force politique et idéologique s'opposant clairement et radicalement au colonialisme et au racisme. Dans les années 1950, la ségrégation raciale fonctionne à plein régime dans le sud des États-Unis. Il faudra attendre les années 1963-1965 et la très forte mobilisation des Noirs américains pour imposer aux administrations démocrates Kennedy et Johnson, qui n'avaient initialement aucune envie d'envoyer les troupes fédérales dans les États du Sud pour aller y garantir les droits des Noirs, l'agenda des droits civiques et électoraux. L'apartheid vient d'être institué puis renforcé en Afrique du Sud à la fin des années 1940 et au début des années 1950, avec un luxe de législation visant à parquer les Noirs dans des réserves et leur interdire de mettre les pieds dans le reste du territoire. Le régime, proche du nazisme dans l'inspiration racialiste, est soutenu par les États-Unis au nom de l'anticommunisme. Il faudra attendre les années 1980 pour que se développe un mouvement de sanctions internationales contre l'Afrique du Sud, auquel l'administration Reagan s'oppose d'ailleurs ouvertement jusqu'en 1986. Dans les années 1950, le mouvement de décolonisation a tout juste commencé, en particulier au sein de l'Empire colonial français, et la France s'apprête à mener une guerre atroce en Algérie. Alors que les socialistes participent au gouvernement et aux opérations de maintien de l'ordre de plus en plus violentes, seul le Parti communiste milite clairement et sans ambiguïté en faveur de l'indépendance immédiate et du retrait des troupes françaises. À ce moment charnière, le mouvement communiste et international apparaît aux yeux d'une bonne partie des intellectuels et du prolétariat international comme la seule force politico-idéologique proposant une organisation sociale et économique du monde sur une base égalitaire, alors que l'idéologie colonialiste continue de vouloir organiser le monde sur une logique inégalitaire, propriétariste, hiérarchique et racialiste. En 1966, le Sénégal, indépendant depuis peu, organise à Dakar le Festival mondial des arts nègres. Il s'agit d'un événement marquant pour le panafricanisme et la négritude, courant littéraire et politique élaboré notamment par Senghor dans les années 1930 et 1940, intellectuel et écrivain qui est ensuite devenu en 1960 le premier président sénégalais après avoir tenté en vain de former une vaste fédération démocratique d'Afrique de l'Ouest. Toutes les puissances capitalistes et communistes ont répondu à l'invitation et tentent de faire bonne figure. Au stand soviétique, la délégation venue de Moscou affiche clairement ses convictions et ses analyses historiques dans ses prospectus. La Russie, contrairement aux États-Unis ou à la France, n'a pas eu besoin de l'esclavage pour s'industrialiser. Elle est donc en bien meilleure position pour nouer des partenariats de développement avec l'Afrique sur une base égalitaire. L'affirmation ne semble surprendre personne, tant elle est naturelle dans le contexte de l'époque. Dans les années 1970 et 1980, cet élément de prestige moral a presque totalement disparu. Les décolonisations sont terminées, les droits civiques ont été étendus aux Noirs américains, et les valeurs de l'antiracisme et de l'égalité des races et des peuples font maintenant partie du socle commun réputé consensuel au sein des pays capitalistes, qui sont désormais devenus des sociétés social-démocrates post-coloniales. Les questions raciales et migratoires sont certes sur le point de jouer un rôle croissant dans les clivages électoraux en Europe et aux États-Unis à partir des années 1980 et 1990. Nous y reviendrons longuement dans la prochaine partie. Mais il est évident que le camp communiste a perdu tout avantage moral clair sur ces questions dans les années 1970 et 1980, et que les critiques à son égard peuvent désormais se concentrer sur sa politique répressive et carcérale, son traitement des dissidents et ses faibles performances économiques et sociales. Dans The Americans, Elizabeth et Philippe sont des agents du KGB, opérant aux États-Unis au début des années 1980. Elizabeth a une idylle avec un militant noir américain, ce qui témoigne d'ailleurs du fait qu'elle reste de façon générale plus sincèrement attachée à l'idéal communiste que son vrai faux mari Philippe, qui se demande un peu ce qu'il fait là, si près de la chute finale du régime soviétique. Diffusée entre 2013 et 2018, cette série permet également de prendre la mesure du temps passé et du fait que le communisme soviétique a depuis longtemps cessé d'être associé spontanément et principalement à l'antiracisme et à l'anticolonialisme. En janvier 1988, alors que l'apartheid est toujours debout, l'aviation cubaine intervient en Angola face aux blindés sud-africains. « Nous avons décidé de résoudre le problème à nos risques et périls, unis aux Angolais », explique Castro le 26 juillet 1991 en présence de Mandela. Venu exprimer le sentiment d'une grande dette envers le peuple cubain, celui-ci insiste sur les conséquences historiques d'une défaite qui a brisé le mythe de l'invincibilité des oppresseurs blancs et qui fut une charnière dans la lutte contre l'apartheid. On retrouve le même mouvement à un degré moindre avec la question du féminisme. Au cours de la période 1950-1980, alors que l'idéologie patriarcale de la femme au foyer comme aboutissement social bat son plein dans les pays capitalistes, les régimes communistes se placent à la pointe du combat pour l'égalité homme-femme, en particulier sur le lieu du travail, avec le soutien apporté aux crèches et aux services publics de prise en charge des enfants, tout autant qu'à la contraception et au planning familial. Le positionnement n'est pas exempt d'hypocrisie, si l'on en juge par le fait que les dirigeants politiques dans le monde communiste étaient tout aussi masculins qu'ailleurs. Il reste que les soviets et les assemblées parlementaires de toute nature en Union soviétique et en Europe de l'Est comptaient jusqu'à 30-40% de femmes au cours des années 1960 et 1970, à un moment où l'on en trouvait moins de 5% sur les bancs des parlements en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. On objectera que les assemblées au sein des pays communistes avaient une autonomie politique limitée et étaient souvent issues d'élections avec un candidat unique ou bien de partis fantoches, jouant un rôle de figuration auprès du dit parti unique qui détenait la quasi-totalité des pouvoirs réels. Les nominations de femmes sur les listes n'avaient de ce fait que des conséquences limitées sur la réalité du pouvoir et de sa répartition. Toujours est-il que la proportion de femmes députées chuta brutalement de 30-40% à guère plus de 10% en Russie et en Europe de l'Est entre les années 1980 et les années 1990, pour se retrouver approximativement au niveau de l'Ouest, voire légèrement au-dessous. On notera aussi que la Chine et plusieurs pays d'Asie du Sud et du Sud-Est sont dans les années 1960 et 1970 très en avance sur les pays occidentaux sur la question de la proportion de femmes députées. Dans l'autre moitié du soleil, dont l'action se déroule au début des années 1960, à la veille de la guerre du Biafra, l'intellectuel Igbo Odenigbo se passionne de politique dans le Nigeria nouvellement indépendant. Comme citoyen du monde, il suit l'actualité des combats pour l'égalité raciale au Mississippi, à la révolution à Cuba, sans oublier la première femme premier ministre au monde qui vient d'accéder au pouvoir à Ceylan. À partir des années 1990-2000, les pays occidentaux vont s'approprier la cause du féminisme, comme tant d'autres avant elles, avec plus ou moins de sincérité et d'efficacité quant à leur volonté réelle d'égalité. Le communisme et la question des différences légitimes. Revenons à l'attitude du communisme soviétique face à la question de la propriété. Il est important de tenter de comprendre pourquoi le pouvoir soviétique s'est retrouvé à adopter une position aussi radicale à l'encontre de toute forme de propriété privée des moyens de production, y compris les plus minuscules. Le fait de criminaliser les détenteurs de carrioles et d'échoppes au point de les emprisonner peut sembler absurde. Cette politique obéit pourtant à une certaine logique. Il y a d'abord et surtout la crainte de ne pas savoir où s'arrêter. Si l'on commence par autoriser des formes de propriété privée de petites entreprises, ne risque-t-on pas de ne pas savoir où placer la limite et, de proche en proche, de ressusciter le capitalisme? De même que l'idéologie propriétariste du XIXe siècle refusait toute remise en cause des droits de propriété privée acquis dans le passé, de peur que l'ouverture de cette boîte de Pandore ne mène tout droit au chaos généralisé, l'idéologie soviétique refuse au XXe siècle d'admettre autre chose que la propriété strictement étatique, de peur que le moindre interstice laissé à la propriété privée ne finisse par gangrener l'ensemble. Au fond, chaque idéologie est victime d'une forme de sacralisation, de la propriété privée dans un cas et étatique dans l'autre, et de la peur du vide. Avec l'expérience historique dont nous disposons aujourd'hui, et en particulier avec les succès et les échecs observés au cours du XXe siècle, il est possible de dresser les contours d'un socialisme participatif et d'une propriété temporaire et partagée qui permettent de dépasser à la fois le capitalisme et le soviétisme. Concrètement, il est possible de se reposer sur les initiatives décentralisées portées par des propriétés privées de taille raisonnable, tout en empêchant la concentration de détention patrimoniale excessive, grâce notamment à l'impôt progressif sur la propriété, la dotation universelle en capital et le partage des droits de vote entre actionnaires et salariés. L'expérience historique permet de mettre des limites et de fixer des bornes, qui ne sont certes pas des certitudes mathématiques menant à des politiques parfaites qu'il n'y aurait plus qu'à appliquer partout et tout le temps, mais dont les implications doivent au contraire être soumises à la délibération permanente et à l'expérimentation, et sur lesquelles il est néanmoins possible de s'appuyer pour aller plus loin. Par exemple, on sait maintenant que la part du centile supérieur dans la propriété totale peut chuter de 70 à 20% sans affaiblir la croissance. Bien au contraire, comme le montre l'expérience des pays ouest européens au XXe siècle, où que les représentants de salariés peuvent disposer de la moitié des droits de vote, comme dans la cogestion germanique ou nordique, et que ce partage du pouvoir permet une amélioration de la performance économique d'ensemble. Le chemin menant de ces expériences concrètes à une forme pleinement satisfaisante de socialisme participatif est complexe, d'autant plus qu'il est impossible de séparer la question des petites unités de production de celle des plus grosses. Il est au contraire indispensable de penser l'ensemble en fonction de règles légales et fiscales continues, s'appliquant graduellement aux différents cas de figure, des plus petites entreprises aux plus grandes. Mais les expériences historiques sont suffisamment riches pour indiquer des voies précises d'expérimentation possibles. Si les dirigeants bolcheviques refusent de se lancer dans les années 1920 dans la voie d'un socialisme décentralisé et participatif, ce n'est cependant peut-être pas seulement parce qu'ils ne disposaient pas de ce savoir expérimental, issu de l'histoire des sociétés humaines au XXe siècle et au début du XXIe siècle, et en particulier des succès et des limitations des sociétés social-démocrates, ou parce qu'ils se méfiaient de ces complexités. Pour que les vertus de la décentralisation apparaissent clairement, il est également nécessaire d'articuler une vision de l'égalité humaine avec une acceptation sereine des différences légitimes et multiples entre individus, notamment en termes d'aspiration et d'information, et de leur importance dans l'organisation socio-économique d'un pays. Or, le communisme, sous sa forme soviétique, sans doute en partie sous l'effet d'une certaine illusion industrialiste et productiviste, tend à négliger l'importance et surtout la légitimité de ces différences. Concrètement, Si les besoins humains prennent des formes peu nombreuses et relativement homogènes, se nourrir, se vêtir, se loger, s'éduquer, se soigner, et que l'on se convainc que les biens et services correspondants peuvent avoir des contenus quasi identiques pour chacun, en partie d'ailleurs pour de très bonnes raisons liées à l'unité fondamentale de l'espèce humaine, alors la décentralisation perd de son intérêt. Une organisation fondée sur la planification centralisée peut faire l'affaire en affectant chaque ressource humaine et matérielle à sa tâche. Le problème est que la réalité du problème d'organisation économique et sociale que les sociétés humaines ont à résoudre est plus complexe. Il ne peut pas se réduire à cette unité des besoins fondamentaux. Dans toutes les sociétés, aussi bien d'ailleurs à Moscou en 1920 qu'à Paris ou à Abuja en 2020, il existe également une infinie diversité de biens et de services dont les individus ont besoin pour mener leur vie et développer leurs projets et aspirations. Plusieurs de ces besoins sont certes factices, fondés parfois sur l'exploitation d'autres individus, ou bien nocifs et polluants, menaçant les besoins fondamentaux des autres individus, auquel cas il est essentiel que la délibération collective et les lois et institutions en vigueur réduisent ou interdisent leur expression. Mais une partie importante de cette diversité de besoins est légitime et ne peut être réglementée depuis le sommet de l'État, sauf à s'exposer à une brutalisation des individualités et des individus. Par exemple, à Moscou, dans les années 1920, certaines personnes ont une préférence du fait de leur histoire ou de leur sociabilité particulière pour habiter certains quartiers plutôt que d'autres, ou pour certains aliments ou vêtements. D'autres individus disposent à la suite de leur propre trajectoire d'une carriole, d'une échoppe ou d'une qualification aux caractéristiques spécifiques. Seule une organisation décentralisée peut permettre de faire en sorte que toutes ces différences légitimes entre individus puissent se rencontrer et s'exprimer. Une organisation étatique centralisée ne peut y parvenir. Non seulement car aucune structure étatique ne pourra jamais rassembler toutes ces informations pertinentes sur les informations et caractéristiques individuelles, mais également parce que le simple fait de chercher à les collecter de façon systématique risquerait d'affecter négativement les processus sociaux par lesquels les individus apprennent à se connaître eux-mêmes. Du rôle de la propriété privée dans une organisation sociale décentralisée. Une organisation sous forme de coopérative entre travailleurs, forme souvent évoquée en Russie dans les années 1920 au moment des débats autour de la NEP, et également envisagée et soutenue dans les années 1980 lors de la politique d'ouverture économique menée sous Gorbatchev, ne permet pas non plus de répondre entièrement aux défis posés par la diversité des besoins et des aspirations humaines. Comme nous l'avons vu avec l'exemple du projet de création d'un café-restaurant ou d'une épicerie bio, cela n'aurait pas beaucoup de sens de donner autant de pouvoir de décision à celui qui a investi toutes ses économies et son énergie dans un tel projet et à un salarié recruté la veille et qui s'apprête peut-être lui aussi à lancer son propre projet, au sein duquel il serait tout aussi insensé de lui ôter tout droit de contrôle privilégié. De telles différences entre individus en termes de projets et aspirations sont légitimes, et elles existeraient également dans une société parfaitement égalitaire où chacun disposerait rigoureusement du même capital économique et éducatif de départ. Elles traduiraient alors simplement la diversité des aspirations humaines, des subjectivités et des personnalités, des cheminements personnels possibles. Or, la propriété privée des moyens de production, correctement régulé et limité dans son étendue, fait partie des éléments de décentralisation et d'organisation institutionnelle permettant à ces différentes aspirations et caractéristiques individuelles de s'exprimer et de se développer dans la durée. L'ampleur de la concentration de cette propriété privée et du pouvoir qui en découle doit certes être rigoureusement débattue et contrôlée, et ne doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire, au moyen notamment d'un impôt fortement progressif sur la propriété, d'une dotation universelle en capital et d'un équilibre entre les droits de vote des salariés et ceux des actionnaires. Envisagé dans cette perspective purement instrumentale, sans aucune forme de sacralisation, la propriété privée n'en est pas moins indispensable à partir du moment où l'on considère que l'organisation socio-économique idéale doit reposer de façon essentielle sur cette richesse humaine que constitue la diversité des aspirations et des informations, des talents et des qualifications. À l'inverse, criminaliser toute forme de propriété privée d'une carriole ou d'une échoppe, comme le décide le pouvoir soviétique dans les années 1920, revient au fond à faire l'hypothèse que cette diversité d'aspirations et de subjectivités n'a qu'une valeur limitée pour l'organisation de la production et de l'industrialisation du pays. Signalons enfin un élément important de complexité supplémentaire. En pratique, l'évocation de ces différences légitimes d'aspiration entre individus a été régulièrement utilisée dans l'histoire comme stratégie argumentative visant à justifier des inégalités par ailleurs très contestables. Par exemple, les préférences des parents pour différents types d'écoles et de formations sont souvent évoquées pour justifier des formes d'inégalité scolaire et de mise en concurrence des écoles, permettant en pratique aux plus favorisés de séparer leurs enfants de ceux dont les parents sont moins à même de déchiffrer les codes et de choisir les écoles et les filières les plus porteuses. Dans ce cas, on peut raisonnablement considérer que la bonne solution consiste à sortir l'éducation du jeu du marché et à lui apporter des financements publics adéquats et égalitaires. C'est dans une certaine mesure ce qui a été fait dans la plupart des pays, tout du moins au niveau de l'enseignement primaire ou secondaire. De façon générale, c'est à la délibération collective et démocratique qu'il revient de fixer les solutions et les règles les plus adaptées à chaque secteur. Lorsque le bien ou service en question est raisonnablement homogène, par exemple si l'on peut se mettre d'accord au sein d'une communauté donnée sur l'ensemble des savoirs et compétences que tous les enfants d'un âge donné doivent acquérir, alors la mise en concurrence des unités produisant ces services, et a fortiori la propriété privée et lucrative de leurs moyens de production, n'a que peu d'intérêt et peut souvent entraîner des conséquences néfastes. À l'inverse, dans des secteurs où il existe une diversité légitime des aspirations et préférences individuelles, par exemple la fourniture de vêtements ou de nourriture, la décentralisation, la concurrence et un usage maîtrisé de la propriété privée des moyens de production, se justifient. Cette réflexion sur l'étendue des différences légitimes est certes plus complexe que la solution simple consistant à décréter que la propriété privée est la solution à tous les problèmes, ou à l'inverse, à la criminaliser dans toutes les situations. Elle est pourtant indispensable si l'on veut parvenir à penser la propriété sociale et temporaire comme l'un des éléments d'une stratégie globale d'émancipation et à ne pas reproduire les erreurs fatales du communisme soviétique.